Aujourd'hui, on parle beaucoup de la méditation. Si vous regardez le nombre de revues qui paraissent dans les kiosques partout, vous allez à la gare, vous achetez pour le trajet le dernier Géo, le dernier, je ne sais, Science. Donc tout le monde parle de la méditation et de ses bienfaits. Tant mieux. Donc à la fois, ça peut stimuler les personnes, hein, on va dire, qui... C'est un moyen d'entrer, on va dire, dans la pratique. Et en même temps, ça peut redonner aussi parfois un peu de, on pourrait dire ça, de peps, un peu de renouveau pour les anciens qui peut-être parfois se demandent, voilà, pratique, mais on perd souvent la motivation. Pas souvent, peut-être, c'est pas. Donc les bienfaits de la méditation. Et il y a différentes formes de méditation. La méditation de base amène l'esprit à se pacifier, à s'apaiser, à se stabiliser. Et c'est une base, vraiment. Ce soir, donc, nous avons convenu, il me semble, d'orienter sur une autre forme de méditation qui est celle de la compassion, de l'amour et de la compassion. Mais sachons que l'amour et la compassion s'enracinent dans la tradition du Bouddha, dans une stabilité intérieure. C'est très important de le comprendre. On ne commence pas par la compassion. On commence par rencontrer son propre esprit, voir ce qui nous agite et apprendre à le pacifier. Pourquoi? Sinon, ça donne lieu, pardon, à toutes sortes d'interprétations. Et de manque de stabilité. Vous allez comprendre très facilement dans l'explication qu'on va donner ce soir aussi de la pratique de Tonglen, par exemple, qui est une façon d'entraîner l'esprit à l'amour et à la compassion. D'ailleurs, on pourrait s'étonner aussi, y a-t-il besoin de s'entraîner à l'amour et à la compassion? Ben, il se trouve que oui, parce que finalement, on se rend compte que ce n'est pas si facile d'être aimant, compatissant, bienveillant, etc. Et si on se rend compte que ce n'est pas si facile, c'est parce que justement on essaie de regarder, de voir le fonctionnement de notre esprit. Il y a une aspiration à être aimant, bienveillant, etc. On a tout ce bon fond, on pourrait dire. Et on a en même temps, s'en rend compte, hein, beaucoup d'obstacles ou on va dire, d'états intérieurs, de bruit de fond, d'émotions qui court-circuitent en quelque sorte cette aspiration. On peut le constater dans le quotidien aussi, pas nécessaire hein, de seulement dans une voie spirituelle, mais évidemment, quand on est engagé dans une voie et qu'on va nous parler des valeurs fondamentales qu'il s'agit de développer pour se libérer d'un certain nombre de conditionnements, on va évoquer évidemment l'amour, la bienveillance, la compassion, l'empathie, etc. Et là, nous allons nous rendre compte que, eh bien, pour les intégrer réellement dans notre vie, cela demande un entraînement. C'est pourquoi ça s'appelle un entraînement, d'ailleurs. C'est l'entraînement de l'esprit et tout est support d'entraînement. C'est ça qui est justement merveilleux. C'est-à-dire que qu'il s'agit d'utiliser tout ce qui nous contrarie, tout ce qui nous irrite, tout ce qui nous est désagréable, inconfortable, pour développer cet esprit qu'on appelle cet esprit d'éveil. C'est-à-dire cet esprit qui s'ouvre aux autres et qui accepte de travailler avec tout ce qui est autre. Et tout ce qui est autre, ça peut être aussi bien les autres, bien sûr, personnes, mais aussi ce qui est autre, ça peut être toutes sortes de situations, d'événements, etc., d'imprévus, d'inconnus. Et qui, évidemment, s'il s'agit de travailler avec cela, c'est que cela génère en nous comment dire, des réactions et la tentation de rejeter certains aspects, ce qu'on va qualifier de désagréable, et de vouloir favoriser ce qui nous semble être plaisant et agréable. Ça, c'est ce que le Bouddha a déjà dit dans les quatre nobles réalités, hein, c'est-à-dire la cause de la souffrance, du mal-être, de l'insatisfaction que nous ressentons tous, c'est le fait que nous voulons sélectionner dans ce que nous vivons ce qui nous semble agréable et éviter le reste. Vous vous reconnaissez aussi, comme moi, oui, de la même façon. Oui, vous sentez ça. Hein? On a cette tendance. C'est bien normal, oui. Il n'y a pas non plus à se dénigrer parce qu'on a cette tendance. C'est l'expérience humaine. L'expérience humaine fait que si c'est bon, ben on en veut encore. Mais parfois, si on en veut trop ou si on s'attache, eh bien, ça risque d'être douloureux. Parce que si je m'attache, par exemple, à ce joli bol orange, parce que je trouve la couleur orange très jolie et qui me semble d'une bonne contenance, et qu'on peut y mettre des bonnes choses, eh bien, finalement, du point de vue, on va dire, de l'enseignement, si je développe un certain regard profond par rapport à cela, je vois que cela est déjà brisé. Cela est déjà mort. Cela, on pourrait dire de différentes façons, oui, est impermanent, etc., etc. Donc, si je me rends compte de cela, je vais pas le lâcher, mais si je réalise que cela est déjà brisé, que c'est dans sa nature que cela arrive, alors évidemment, j'en prendrai soin d'abord. Parce que je sais que si cela est périssable, eh bien, c'est une chance aussi de rencontrer cela. Hein? Et en même temps, je ne m'y attacherai pas parce que je sais que sa nature est transitoire et éphémère. Oui? Alors pour les objets, bon, c'est plus ou moins facile, ça dépend lesquels. Et après, vous appliquez cela à tout dans votre vie et vous voyez qu'il y a des choses, c'est quand même moins facile de lâcher et d'autres un peu plus faciles. Mais c'est tout le chemin qui nous apprend ce lâcher-prise qui vient avec un approfondissement de la compréhension. Comprendre la nature des choses nous aide à lâcher. Donc ça, c'est ce que dit l'enseignement. C'est pourquoi pratiquer la méditation est inséparable de, on pourrait dire cela, d'une vision, hein, d'une vision. Une vision autre que celle que nous avons d'habitude. Donc ça, changer notre vision, notre façon de voir. Et pour cela, on commence à regarder à l'intérieur. C'est ce que la méditation nous permet de faire, rencontrer notre propre esprit et voir à l'intérieur comment nous fonctionnons. Par l'attention, le pouvoir transformateur de l'attention, ce qu'a découvert le Bouddha, ce qu'il a enseigné, l'attention, la pleine conscience, comme vous voulez, peu importe les mots, la méditation, nous sommes tous pourvus d'attention. Seulement, où est-elle cette attention? Où est-elle Vous savez où elle est, votre attention? Où est-elle partie, cette attention? Parfois, l'attention, justement, elle est absorbée dans toutes sortes de pensées, d'émotions ou en fait, de pensées qui nous traversent sans arrêt, ou d'occupations que nous avons, d'agitation. On pourrait dire que la première chose, c'est remarquer combien nous sommes effectivement très agités et anxieux. Anxieux parce que nous ne pouvons pas contrôler les choses et que, ignorant dans l'expérience leur nature, nous avons tendance à nous y attacher. Donc, développer à nouveau le pouvoir que nous avons d'être attentifs à l'instant, c'est la pratique de la méditation, ramener son attention sur la respiration. Connaissez cela, pratique de shamatha vipassana, pacifier l'esprit, ramener l'esprit sur un support simple, universel, il pourrait y avoir toutes sortes de supports. Ici, la respiration, d'une façon très légère et en même temps très rigoureuse. On revient particulièrement à l'expire, tout en restant parfaitement présent à l'ensemble de l'environnement et au-delà même, oui, mais. Alors, il s'agit d'être à la fois attentif à la respiration et à la fois attentif à ce qui est. En fait, ça n'est pas la respiration qui est le but de la pratique, c'est juste un moyen pour revenir à l'instant présent. Donc, ce qui compte, c'est l'expérience de l'instant présent. Et qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent? Nous devons reconnaître ce qui se passe dans l'instant présent. Nous devons connaître même. Les sutras le disent. Le pratiquant sait ce qui se passe dans son corps, dans ses sensations, dans son mental. Il le sait. Quand il inspire, il sait j'inspire. Quand il expire, il sait j'expire. Quand il est angoissé, il sait je sais je suis angoissé. Quand il est joyeux, il sait je suis joyeux. Quand il est triste, il sait je suis triste. Vous voyez, il y a des sutras comme ça se répète à l'infini parce que c'est une façon de bien nous faire comprendre que la méditation n'est pas un état vaporeux où nous sommes dans les brumes himalayennes en train de planer comme dans Tintin au Tibet. Mais qu'il s'agit d'être vraiment là dans le corps, pleinement incorporé, et de sentir, de ressentir, et de savoir aussi ce qui se passe dans l'esprit. Donc c'est une vraie connaissance, reconnaissance, c'est ça l'instant. Si on est dans l'instant, c'est ce qui se passe en nous. Vous savez ce que vous ressentez, ce que vous pensez, où vous êtes. C'est exactement ça, une présence à l'instant. Et non pas je suis là présent à l'instant. Voyez, la formulation en elle-même, elle est très vague. Donc on a besoin d'être très précis. Et c'est pourquoi un enseignement aussi est un accompagnement. Parce qu'il nous faut décrire le paysage que nous traversons dans la présence. Pour savoir si c'est bien ça ou si nous sommes en train de nous raconter des histoires. Dans la méditation, on peut passer 10 ans, 20 ans à conforter des attitudes qui ne sont pas les bonnes attitudes. Donc, stabiliser l'esprit. En utilisant le support de la respiration. Si on est vraiment très distrait, très agité, on peut compter les respirations, on peut faire beaucoup d'exercices avec les respirations. Mais le propos, c'est de ne pas trop s'agiter à travers non plus les supports de méditation. Donc, plus c'est simple, plus c'est sobre, et moins l'esprit a de quoi se mettre sous la dent pour continuer sa transe habituelle. Donc, une fois que nous allons vers cette pacification d'esprit, nous apprenons le chemin pour revenir à l'instant présent et une certaine qualité d'ouverture, de réceptivité, de bienveillance dans cet instant présent. Alors, naturellement, finalement, nous commençons dans cette ouverture à voir que il n'y a pas que nous. C'est ça. Au début, on pratique pour soi, pour aller mieux soi, ou tout ce qui peut nous occuper l'esprit, nous agiter l'esprit. Et puis progressivement, on se rend compte que les autres aussi vivent ce que nous vivons nous-mêmes. Que chacun veut être heureux, mais qui n'arrive pas à trouver le chemin pour cela, et se trompe de chemin. Ouais. Donc que faire finalement? Et c'est là où vient l'enseignement donc sur la pratique de l'amour et de la compassion, qui utilise aussi le souffle, les enseignements du Mahayana, du grand véhicule, une littérature très abondante sur l'entraînement à l'amour et à la compassion. Et nous en avons bien besoin aujourd'hui. Nous avons bien besoin de douceur, de tendresse, de gentillesse, de sourire, de présence aimante. Nous en avons bien besoin. Non? Qu'en pensez-vous? Nous avons besoin de, plus que jamais, oui, de dépasser, dire les guerres, les combats, les conflits intérieurs, extérieurs, et tout ce que vous voulez. Le Dalai Lama dit l'amour, c'est la révolution. Oui, c'est vrai. Alors, il s'agit de bien comprendre aussi. L'amour, c'est, comment dire, souhaiter, c'est faire le souhait que tout soit heureux. Que je sois heureux, mais que je puisse rendre les autres heureux aussi. C'est pas seulement être heureux, c'est vouloir rendre les autres heureux. Là, déjà, on est dans une ouverture. C'est pas moi, je veux être heureux, moi, je veux être bien, moi. Au bout d'un moment, peut-être, après des années de développement sur vous, vous en avez un peu marre. Dites, ou alors naturellement ça s'ouvre et là vous vous rendez compte que finalement le vrai bonheur c'est oui être heureux mais rendre les autres heureux et rendre les autres heureux me rend heureuse. Rendre les autres heureux vous rend heureux. Alors, quelle découverte! Avant, on pensait que c'était nous qui devions nous-mêmes nous rendre heureux, ou je ne sais pas, ou ceux que nous allons voir et que nous payons pour qu'ils nous rendent heureux, mais ça ne marche pas toujours. Et nous découvrons, en fait, voilà, ça c'est une vraie découverte, qui est une révolution, qui est au cœur de la pratique de Tonglen, qui est on va dire, ce renversement en quelque sorte, cette révolution intérieure, l'autre est aussi important que moi-même. Et nous le découvrons dans je veux être heureux et je veux rendre les autres heureux. Oui, les autres sont aussi importants que moi-même. C'est une chose que nous savons bien sûr aussi parfois. Si vous avez des enfants, vous savez que quand on est parent, on a envie que nos enfants soient mieux que nous. On est prêt à beaucoup de choses pour qu'ils soient plus heureux que nous. Et si vous avez des personnes auxquelles vous tenez, c'est. Enfin, parfois vous pensez ça, puis parfois vous êtes plus égoïste. C'est comme cela qu'on est. Donc, on a une aspiration, mais hein, elle est bien difficile à mettre en application parce que ça n'est pas si simple dans la réalité. Donc, quelle que soit la situation, les situations sont complexes. Ici, nous parlons d'un état intérieur que nous essayons de développer, de travailler. Ça, l'état intérieur, c'est aussi donc regarder en nous ce que nous pouvons changer, transformer. Donc, l'amour, rendre les autres heureux, être heureux, rendre les autres heureux. Et rendre les autres heureux me rend heureux. Ça s'appelle l'amour.